Hare Krishna. Il est 6 heures, les âmes s'élèvent enfin, les tambours résonnent, les cliquetis des timbales viennent caresser nos oreilles et réveiller nos sens. L'odeur de l'encensoir se veut toujours plus intense, baignant les convives dans une atmosphère quasi tantrique. Les yeux sont clos dans la salle, plus aucun mot, juste des voix répétant en chœur de doux mantras. Lancinante écriture sacrée, pratique quotidienne, corps céleste et corps terrestre ne font plus qu'un. Et l'oiseau de nuit chante, attentif à cet instant, attentif à cette prière collective. Ici le temps s'arrête, pas d'avant, pas d'après, juste le moment présent.
Après cet interlude poétique d'Afelandra Sasia, un texte intitulé Hare Krishna, nous allons retrouver Mibel Andino. Mibel est professeure de yoga et thérapeute EFT pour Emotional Freedom Techniques. Elle accompagne notamment, à l'hôpital Rénier à Rennes, des femmes dans la reconstruction de leur subjectivité après des traumatismes graves. Elle développe également un podcast intitulé Les chemins de lumière, dans lequel elle partage des expériences inspirantes pour vivre son chemin de vie avec joie et confiance. Par ailleurs, elle a créé Calling Shakti, une méthode d'accompagnement vers le développement personnel, la connexion à sa féminité et à sa force créatrice. Elle a été notre enseignante pendant plusieurs années à Rennes, et vous avez pu l'entendre une première fois sur Radio UCLUC dans la première émission Faire Société, la parole. Elle nous avait parlé des cercles de parole et de chants de mantra. Aujourd'hui, c'est vers ses pratiques d'astrologie, de tarot, d'écriture et de compréhension des rêves qu'elle nous emmène.
À quel moment as-tu commencé à faire le lien entre ton quotidien, ta pratique du yoga et l'étude des astres?
Eh bien, je pense que ça se fait tout seul. Moi, avant de connaître le yoga, je connaissais déjà l'astrologie. Je m'intéressais déjà à l'astrologie depuis très jeune. Quand j'ai rencontré les gens, une de mes premières questions, c'était quel signe. j'avais déjà une bonne compréhension de l'astrologie quand j'ai commencé à pratiquer. On couvre des aspects différents de la personne avec l'astrologie et la pratique, c'est vraiment complémentaire.
Et comment tu as fait le lien du coup entre ces connaissances cosmiques et le yoga? Enfin, comment c'est apparu pour toi?
Étant donné que l'astrologie faisait déjà partie de ma vie et que je me suis déjà toujours laissée guider par les astres, enfin me laisser guider, j'ai toujours été sensible à ce qui s'est passé dans le ciel. Les pleines lunes, les nouvelles lunes, ça m'a toujours, ça a toujours un impact sur moi, par exemple. Quand j'ai commencé à pratiquer, c'était l'Ashtanga Yoga. Et déjà, à ce moment-là, on nous avait dit, on ne pratique pas ni en pleine lune, ni en nouvelle lune, par exemple. Donc, du coup, ça s'est fait tout seul. D'autant plus que pour les femmes, c'est très logique. Si on suit bien son cycle, normalement, on est réglé avec la lune. Et effectivement, ça tombe pile poil. Et soit on arrête de pratiquer, soit on diminue la pratique. Du coup, c'est devenu vraiment naturel. Je ne me suis même pas posé la question.
Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments que la lune qui peuvent influencer la construction d'un cours, par exemple, pas forcément purement physique?
À ce moment-là, je le mettrais pas vraiment en lien avec le yoga. C'est tout simplement les énergies qui sont présentes sur le moment, qui vont nous influencer d'une manière ou d'une autre. Et du coup, il peut y avoir des thématiques fortes sur le moment. Et je peux me servir de ces thématiques-là pour introduire une thématique dans la pratique. Mais après, ça peut être vraiment déconnecté de l'expérience de la pratique. C'est toujours un fil, une petite graine qu'on peut semer en début de la séance, mais après, chacun vit l'expérience différemment. Les postures ne vont pas forcément incarner à chaque instant la thématique.
Il y a quelque temps, tu avais fait un post Instagram où tu faisais des liens entre tes propres rêves, tes cycles lunaires et comme des exercices d'écriture. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça?
Oui, c'est l'exercice qu'on appelle le journaling. Et c'est une pratique, ça m'a toujours accompagnée, en fait, depuis le début. Depuis l'âge des 12-13 ans, je ne sais pas, j'ai commencé à écrire. J'écrivais déjà beaucoup de textes, des façons décortiquées, par-ci, par-là. Pas vraiment sous une forme journalière avec la date, etc. Et au fil des années, ça s'est construit comme ça. C'est devenu vraiment un journal avec la date. Et ça donnait déjà beaucoup d'informations par rapport à ce qui s'est passé dans mon inconscient. J'ai commencé aussi à écrire les rêves quand j'ai commencé à faire des études en psychologie, surtout la psychologie de Carl Jung. Je m'intéressais du coup à faire vraiment le lien entre les rêves et ce que je vivais. Mes expériences au quotidien, mes ressentis, mes émotions. Et je me suis rendu compte que les rêves m'informaient beaucoup. Et ensuite, j'ai lu le livre qui s'appelle Libérer sa créativité de Julia Cameron. Et ça a rajouté à nouveau, ça a modifié à nouveau ma façon de faire du journaling. Parce qu'elle, elle invite vraiment à écrire 3 pages obligatoirement tous les matins. Donc là, j'ai structuré un peu plus. Et ensuite, j'ai lu le livre de Miranda Gray, Lune rouge. Et là, elle rajoutait un autre aspect que je n'avais pas encore ajouté. Et là, c'était vraiment l'apothéose pour moi, parce que là, ça structurait vraiment tout, parce qu'il fallait écrire tous les jours aussi. Mais il fallait vraiment tenir en compte la position de la Lune, ou la phase de la Lune, ses ressentis physiques, ses ressentis émotionnels, dans quel jour de ton cycle tu étais, et puis les rêves. Et là, ça m'a permis vraiment d'avoir une espèce de map intérieure, en fait, de ce qui s'est passé chez moi. Et puis, au fil du temps, des années, ça permet aussi de faire une espèce de cadran lunaire vraiment personnalisé. Même si les phases de la Lune, enfin, je veux dire, le cycle, parfois, il se décale. On peut être la moitié de l'année calée avec la pleine lune et l'autre moitié avec la nouvelle lune, par exemple. Et du coup, le cadran lunaire n'est pas fixe, figé, mais c'est super intéressant quand même justement de suivre ce qui se passe.
Comment les éléments cosmiques peuvent-ils devenir un outil de compréhension de soi et de notre rapport au monde?
Oui. Ça, c'est une très bonne question et elle est délicate aussi parce que ça va dépendre de quel courant on suit. Parce qu'il y a l'astrologie tropicale, que c'est celle que j'ai toujours suivie, celle qu'on connaît le plus de notre côté du monde. Mais il y a l'astrologie védique aussi, qui prend les choses d'une autre façon. Leur point de vue est vraiment différent. Et en plus, à l'intérieur de l'astrologie tropicale, il y a un mode d'astrologie, un courant qui est beaucoup plus fataliste, je vais mettre entre guillemets, dans le sens où on est né comme ça, selon ta charte ou ta carte, tu es comme ça, et puis basta. Et il y a un autre courant qui est évolutif. On te dit, ben voilà, il y a ces aspects qui sont peut-être plus propices pour toi dans ta vie, puis à toi d'en faire ce que tu veux avec ça. Nous, on est quand même des êtres. On nous a doté du libre arbitre, donc ça sert juste à comprendre certaines choses, pourquoi on va être plus attiré par certaines choses et pas par d'autres, etc. Mais la lecture de ta carte astrale, du coup, va t'aider à être en paix avec les choses pour lesquelles tu sens plus d'attirance, ou au contraire, à te dire ah, maintenant, il faut justement que j'aille de l'autre côté, selon où se trouve ton nœud nord et ton nœud sud, à comprendre aussi comment tu es en relation avec les autres. Ah oui, ben en effet, je suis comme ci et comme ça parce que j'ai ma lune en tel endroit ou j'ai ma Vénus en tel endroit, etc. Et comprendre aussi comment parfois on rentre en conflit plus facilement avec certaines personnes qu'avec d'autres. Et c'est justement ça qui m'a fascinée dès le début en astrologie. Et c'est pour ça que ça faisait partie des premières questions que je posais aux gens quand je les rencontrais. Dès que je sentais quelque chose avec la personne, il me fallait savoir le signe pour confirmer. Ah oui, bah c'est ça, ok. Je comprends même mieux maintenant. Donc c'est super intéressant. Au fil des années, franchement, à chaque fois, c'est presque sans faute, quoi.
Aussi, tu es une grande collectionneuse des jeux de cartes et tu les utilises assez régulièrement. Et comment cet usage des jeux de cartes qui sont pas toujours très classiques, qui au contraire vient compléter peut-être cette lecture du quotidien que tu peux avoir?
Oui, les oracles, les tarots, pareil, c'est venu bien plus tôt que les yogas. Je suivais déjà beaucoup l'astrologie et j'ai reçu mon premier tarot, c'était un cadeau. C'est le tarot de Osho, je l'ai toujours, c'est mon préféré toujours. À l'époque, je ne m'intéressais pas encore à ça. ni la spiritualité d'un point de vue hindouiste ou yogique, ni rien. Je me sentais juste connectée à l'univers, aux étoiles, à la nature, etc. Il y a quelque chose en moi, mais je n'avais pas encore mis des mots là-dessus. J'étais très jeune et j'ai rencontré un musicien qui, lui, était déjà à fond. Mais il faisait déjà sa musique méditative, expérimentale, pour l'élévation des vibrations. Ça me paraissait tellement étrange à l'époque. Et lui, il était très connecté déjà avec tout l'aspect spirituel, selon l'Inde et plein d'autres cultures. Et je ne sais pas, il a dû voir quelque chose en moi, mais il m'a offert ses tarots. Et à partir de là, je trouvais que c'était un outil magnifique parce qu'il ne s'agit pas des divinations, c'est juste de venir contacter à nouveau une énergie en toi. Pour moi, c'est un autre canal pour l'intuition. Enfin, on pose une question. Et on fait le tirage, et puis la plupart du temps, la réponse, c'est un point aussi de méditation par rapport à la question qu'on a posée, elle se trouve dans la carte, et c'est vraiment impressionnant parfois.
Est-ce que tu crois que lire un oracle ou tirer un oracle, c'est une manière de rationaliser cette intuition ou c'est plutôt justement se décomplexer face à l'incertitude ou à justement se suivre un petit peu soi-même, lâcher prise vis-à-vis de ce qui serait bon, bien à suivre ou bon pour soi?
C'est vrai qu'au début, je l'utilisais beaucoup pour me rassurer. Encore une fois, j'étais très jeune, donc j'avais parfois des questionnements et je ne savais pas quelle décision prendre, etc. Et je ne faisais pas encore complètement confiance à mon intuition. Et du coup, je préférais, au bout de quelques jours, si je ne sortais pas de l'énigme, moi toute seule, je préférais poser la question devant les cartes. Parce qu'il faut savoir que du coup, ce n'est pas les cartes qui répondent. C'est pour ça que je dis que c'est comme un canal pour l'intuition. Puisque du coup, c'est l'inconscient qui choisit. Donc je me dis, c'est mon intuition, c'est mon être profond. Donc ça doit être la vérité. Et c'est comme ça que je l'utilisais. Mais pas d'une façon aveuglée non plus. Je me donnais toujours quelques jours pour voir si le message, comment je digérais le message et si c'était vraiment vrai. Pour moi, si ça vibrait faux ou vrai en moi, et puis voilà, je suivais.
Et vu que maintenant tu as envie d'accompagner les femmes à justement développer leur intuition, leur créativité, est-ce que les cartes c'est un outil que tu vas utiliser?
Absolument. Oui, absolument. Je trouve que c'est vraiment très puissant. En plus, au fil des années, j'ai trouvé d'autres oracles et chacun a son importance et ça permet aussi, pour revenir un peu à la première question, ça permet aussi de décomplexer au fait de se dire c'est un jeu, enfin oui, enfin, c'est possible, enfin, tout est possible, ça fait partie de la créativité aussi, et du monde, des champs des possibles en fait. Donc ça ouvre des portes, je trouve.
Est-ce qu'il y a des thématiques d'oracle? Enfin, moi, je ne connais pas beaucoup les différents oracles qui existent et
Oui,
qu'est-ce qui les différencie vraiment? Enfin, quelle est la gamme possible?
ben, je pense qu'en ce moment précis, c'est vraiment à l'infini. Ça aussi, c'est quelque chose qui, comme je parlais la première fois, on avait parlé du mot reliance, ce qui pour moi est, tout d'un coup est devenu un peu à la mode. Et ben, les oracles, les tarots, pareil, quand je suis arrivée en France, personne ne parlait de ça. Hein. Et là, tout d'un coup, il y a plein d'oracles et des tarots qui sortent avec des thématiques différentes. Mais par exemple, mon premier, comme je disais, c'est le tarot des Osho. Et donc, c'est selon les enseignements des Osho. Osho, ça serait toute une émission.
Ouais.
Mais Osho, c'était un maître spirituel des années 60, 70, 80, très controversé, qui était très révolutionnaire parce que c'était le premier à faire le lien entre le monde spirituel et le monde mondain, si on peut dire comme ça, et à dire, c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on n'a pas le droit de gagner de l'argent. Et donc c'est pour ça qu'il est devenu très controversé. Il est venu aussi parler des sexualités, etc., alors qu'à l'époque, le monde spirituel, non, 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 il n'y a pas de sexualité. Et ses écrits sont magnifiques. Avant de savoir qu'il était aussi controversé, j'étais déjà conquise par ses écrits parce qu'il était vraiment révolutionnaire et il était indien.
Et c'était quoi la particularité de son tarot à lui?
Chaque tarot va représenter une énergie, une force. Et ensuite, dans le livret qui accompagne le tarot, il y a toujours une explication de ce concept-là. ou de l'image. Dans son tarot, lui, ça va très profond dans l'image. Et c'est toujours en lien, du coup, à ce que lui, il enseignait par rapport à ce concept-là. Et donc, après, j'ai eu le tarot de Kuan Yin, une déesse du bouddhisme. Magnifique tarot, et encore une fois, c'est selon la philosophie de Kuan Yin. Donc, j'ai des tarots aussi en lien plus à la terre, les animaux totems, etc. Donc voilà, il y a toute une gamme. Il y a d'autres tarots, plus qui sont inspirés de la culture des Indiens de l'Amérique du Nord. Donc voilà, c'est à l'infini.
Et est-ce qu'il y a plus certains tarots que tu utilises pour tel ou tel contexte ou situation?
Oui, je pense que selon la situation, je vais me sentir plus attirée par un tarot que par l'autre. Quand on est rentré dans la saison du printemps, par exemple, je pense que je me suis sentie plus attirée par le tarot de la Terre, l'oracle de la Terre.
On se demandait aussi avec Angèle si tes oracles, ces lectures des cartes, c'était une manière de remettre un petit peu en question des savoirs, ce qu'on pourrait appeler le savoir scientifique, qui a développé une certaine méthode pour comprendre et dire un peu la vérité, s'il y en avait qu'une.
Je ne dirais pas que je l'utilise pour remettre en cause le côté scientifique. Je suis malgré tout mon côté mystique, spirituel et sorcière, je suis assez cartésienne. Moi, j'adore la science. D'ailleurs, quand j'étais jeune, je pensais que j'allais devenir astronome ou chimiste. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est pas délié, au fait. Pour moi, c'est lié. C'est juste que la science d'aujourd'hui a commencé à s'intéresser d'abord à ce qui était visible. Et tout ce qui est spirituel et mysticisme s'intéresse à l'invisible. Pour moi, il y a vraiment ce côté-là. Même si la science, après, a commencé à s'intéresser à l'invisible, parce qu'ils ont commencé à regarder les atomes, etc., et l'énergie, les fréquences, et tout ça, c'est venu assez rapidement. Mais je l'utilise plus un outil des connaissances des plus. Sans que ça soit ni plus ni moins qu'un outil scientifique, enfin purement scientifique, on va dire.
Et est-ce que tu penses que ces outils de lecture se rattachent toujours à de la divination au sens traditionnel, ou est-ce qu'au contraire, maintenant aussi avec le fait que ça devient un petit peu plus à la mode et tout, comme tu disais, est-ce que ça tend à s'en détacher ou à appartenir à une autre démarche ou une autre place culturellement parlant?
Oui, je pense que ça s'est vraiment détaché de ce côté divinatoire, de cette image des... on appelait chez moi Madame Caladou, cette caricature de la femme avec le turban et puis la boule des cristals, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment loin de ça et qu'on respecte plus, encore une fois, le côté libre-arbitre au fait de chacun. Donc je pense que oui, qu'on est loin de la divination, on est plus dans un outil des connaissances de soi, des aides à reconnecter à notre monde intérieur et à ces champs de l'inconscient, en fait, avec la société telle qu'on la vit, la vitesse à laquelle on vit, etc. La plupart des gens se sont vraiment déconnectés de leur capacité à ressentir tout simplement ce qui était bon ou pas bon pour eux, donc à se déconnecter de leur intuition. Et ces outils-là viennent juste nous aider à nous connecter à ça, sans que ça soit pour autant une vérité qui soit inscrite sur le marbre et qu'on doit suivre ou se dire « Oh là là, ça y est, je suis condamnée, c'est ce qui va se passer », etc.
Tout à l'heure, tu parlais aussi de ton journal. Est-ce que tu reviens régulièrement sur ces journaux que tu tiens ou sur tes oracles passés? Est-ce que ça fait partie de ta démarche de relire ce qui s'est passé avec du recul, je sais pas, 6 mois, 1 an.
Oui, oui. Pour moi, personnellement, sinon, ça n'a pas beaucoup de sens, au fait. Parce que si je le dépose sur la page, bon, ça m'a fait du bien sur le moment et peut-être ça m'a aidé à prendre conscience de quelque chose. Mais si je ne reviens pas, de temps en temps, moi, c'est vraiment personnel, mais moi, je me dis, je loupe des choses. Et la preuve... Je suis revenue sur des journaux après parce que j'arrive pas à m'en détacher. C'est horrible à chaque fois que je fais un déménagement. J'ai des cartons et des cartons des journaux en fait. Parce que c'est vraiment des cahiers assez épais. Et de revenir là-dessus, c'est hyper intéressant. Parce que comment on écrit le matin? Enfin, moi j'écris le matin. On est dans un état de conscience assez particulier. On en vient tout juste de sortir du monde des rêves. Et on s'exprime d'une façon particulière. Je vois aussi que même l'écriture change. Je ne sais pas, je me suis rendu compte que dans ma journée, en général, ma journée 10 de mon cycle, j'ai une énergie, mais des folies. Et puis, j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs. Et je me suis donné la tâche de revenir tous les carnets en arrière, toutes les journées 10, pour voir ce que j'écrivais. Et c'était incroyable. Ça loupait pas. À chaque fois, j'étais dans une énergie assez particulière où j'exprime toutes les choses que j'ai réussi à faire. Et c'est vraiment particulier. Et de la même façon, pendant les pleines lunes et voir les genres des rêves que je faisais ou que je fais toujours autour des pleines lunes, je fais une parenthèse. C'est quand même chouette qu'on fasse cette émission aujourd'hui. Parce qu'on est pleine lune aujourd'hui, c'est la pleine lune en scorpion. Et en plus, c'est mon signe solaire. Et du coup, c'est vraiment l'énergie du scorpion, c'est vraiment l'énergie qu'on vient chercher dans l'obscurité, on vient chercher ce qu'il y a derrière. On vient chercher ce qu'il y a derrière, ce qui est caché, on veut comprendre, ôter les masques, voilà. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment clé aussi de pouvoir revenir en arrière et ça te permet de faire d'autres prises de conscience.
Personnellement, j'ai pas une écriture de journal. Je tiens pas un journal quotidien où je m'analyse, je fais pas ça. Mais j'ai une écriture enfin, poétique. Et je me demandais quel statut toi tu as avec ces écrits de journaux. Est-ce qu'il y a une forme poétique là-dedans qu'est-ce que tu pourrais dire autour de ça?
Eh bien, justement, moi, mes cahiers au début, c'était ça. C'était exactement ce que tu décris. Et des essais et des contes. J'écrivais beaucoup de contes aussi. Et donc, à l'époque, pareil, j'avais toujours mon cahier avec moi, sur moi. Avec ce journal, et c'est ce qu'elle dit, Julia Cameron, dans son livre. C'est ce qui lui a permis, elle, par exemple, d'écrire des livres. Et c'est un outil qui a aidé d'autres gens aussi à démystifier le truc de la page blanche. Il y a des jours où, effectivement, ça n'a rien à voir rien de poétique. C'est vraiment très factuel. Et d'autres jours, c'est ça qui est beau aussi, selon la lune, mes rêves. Tout d'un coup, c'est très, très, très poétique et c'est très beau. Et je me surprends souvent aussi quand je reviens à d'autres cahiers et de me dire, ah ouais, j'ai écrit ça moi. Parce que ça paraît comme si c'était quelqu'un d'autre, tellement je le trouve beau en tout cas à ce moment-là.
Est-ce que tu penses qu'encore aujourd'hui, c'est un type de pratique qui concerne principalement les femmes?
Le journal?
Toutes ces pratiques des cartes ou toute cette sensibilité aux éléments cosmiques, aux lectures de l'invisible, à l'astrologie?
Moi, la première astrologue que j'ai rencontrée dans ma vie, c'était un homme. Aujourd'hui, je suis principalement deux astrologues, c'est deux hommes. Les tarots, comme je venais vous dire, c'est un homme qui m'a offert ces tarots. Je ne pourrais pas dire que c'est principalement féminin. D'ailleurs, Adam, c'est un des astrologues que je suis, il a un podcast aussi. Il invite beaucoup d'hommes astrologues. Il invite des femmes aussi, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'hommes. Mais c'est une science, hein. On a des cartes pour voir comment les planètes sont placées, à quelle vitesse ils bougent, etc. Donc c'est vraiment une science. Après, ce qu'il y a derrière, c'est l'interprétation. Et là, c'est effectivement moins mesurable. Mais on part toujours d'un ancrage scientifique, d'observation scientifique. Je pense que c'est juste que ces derniers temps, il y a une renaissance on peut se réapproprier l'image de la sorcière. Les femmes, petit à petit, se rendent compte, voilà, qu'elles ont ces pouvoirs-là, etc. Et du coup, il y a eu un espèce de revival de tous ces outils-là du côté féminin, parce qu'il y a ces mouvements aussi du féminin sacré, etc. Et tout d'un coup, effectivement, on dirait qu'il y a plus de femmes qui s'intéressent à ça. À voir comment ça évolue dans le temps, mais ouais, je pourrais pas dire que c'est principalement féminin.
Et qu'est-ce que c'est que le féminin sacré?
Et ça, c'est la grande question. Je pense que je pourrais pas répondre d'une manière simple parce que je suis un peu, j'ai un peu de difficulté avec ces termes et avec ce mouvement de féminin sacré. Et je ne suis pas la seule. Et je ne sais pas si c'est générationnel, encore une fois. Parce que les autres femmes que j'ai entendues parler, où elles disaient oui, j'ai un peu du mal avec ce concept-là, elles sont aussi de mon âge ou plus âgées. C'est pas quelque chose que je mets en avant, le féminin sacré, parce que pour moi, si on parle de féminin sacré, il faut parler de masculin sacré. Et est-ce que je reproche à ce mouvement, si je peux reprocher quelque chose? C'est pas un reproche, mais c'est quelque chose qui m'interroge plutôt. C'est qu'il y a toute, bien sûr, une mise en avant des qualités féminines et je suis super contente que ça se passe, parce que le monde a besoin de ça. Mais en même temps, pas assez de mise en avant des qualités masculines, en fait, alors que, on en a besoin pour être vraiment une déesse. il faut être consciente de ces deux polarités, de cette énergie masculine, de ces féminins sacrés, mais aussi de ces masculins sacrés. Parce que si on veut vraiment mener à bien quelque chose, il faut avoir les deux. C'est pour ça que je disais dans notre dernière conversation, où on parlait des cercles de femmes, et je disais, moi j'ai hâte de voir des cercles mixtes, en fait. Parce que je pense qu'il est temps déjà, je pense qu'on a déjà fait beaucoup pour le féminin sacré, etc., et prendre conscience des. De la violence envers des femmes, d'à quel point voilà, la femme représente certaines choses et que nous sommes des déesses. Mais c'est le moment d'arrêter aussi d'un peu diaboliser le masculin et de commencer aussi à mettre de la lumière dans ce masculin. Et il faut, s'il y a des femmes qui sont plus élevées que certains hommes, bah c'est le moment de commencer à les aider à s'élever et les montrer le chemin vers la lumière, mais ensemble. Je suis désolée, je ne pourrais pas définir qu'est-ce que c'est que le féminin sacré. Pour moi, c'est la même chose que le masculin sacré.
Qui peut se trouver dans la même personne.
Tout à fait. Tout à fait. Qui peut être trouvé dans la même personne, que ce soit une femme ou un homme. Pour moi, l'être est sacré. Point barre. C'est l'être entier qui est sacré. Et dans cet être, il y a des qualités féminines qui sont sacrées et il y a des qualités masculines qui sont sacrées.
L'autre jour, tu parlais aussi d'archétypes qu'on pouvait convoquer pendant les cercles. Est-ce que dans l'archétype, en fait, s'incarne quelque chose de bas, enfin, comme si le sacré était tombé dans l'archétype? Est-ce qu'on pourrait dire ça, par exemple?
Si le sacré était tombé dans l'archétype, ah,
Ouais.
c'est intéressant ça comme image. Parce que ça voudrait dire que l'archétype n'est pas sacré, mais je ne suis pas sûre en fait. Par exemple, Carl Jung qui a beaucoup travaillé avec les archétypes, je pense pas que ça soit moins sacré qu'un archétype des déesses indiennes, par exemple. Je ne sais pas. Les archétypes, comme les énergies, c'est juste les différentes parties d'un tout, d'une même chose. C'est comme le yin et le yang, l'ombre et la lumière. C'est pas parce que l'ombre est obscure qu'elle n'est pas sacrée, qu'elle est négative. Là, en tant que scorpionne, je défends beaucoup l'obscurité parce que c'est pas toujours négatif. On a besoin de l'obscurité pour pouvoir identifier la lumière aussi. Sans l'une, on ne voit pas l'autre. Ou c'est la lumière justement qui amène l'obscurité. Donc, je ne pense pas que ça soit moins sacré un archétype. Jung, il parlait de l'anima et l'animus. Voilà, de ces deux polarités féminines, masculines. Je ne pense pas que c'était moins sacré. C'est juste qu'il était. Il n'était pas dans la terminologie du sacré, mais pour lui, c'était déjà très spirituel. Et pour moi, du moment où c'est spirituel, c'est déjà sacré.
Eh bien, je pense qu'il est l'heure de se quitter. Donc, on te remercie encore une fois très chaleureusement pour cette participation. et pour avoir répondu à toutes nos questions. À très bientôt.
Merci à vous deux.
Merci, Mylène.
C'était un plaisir.
Merci.
Pour accompagner le passage à l'été, s'installer tranquillement dans ce nouveau cycle saisonnier, y trouver une belle présence sonore, Angèle Manuali vous propose une méditation guidée. Faites une pause. Offrez-vous une parenthèse. Laissez-vous porter et vibrez quelques minutes.
Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce solstice d'été et de le célébrer ensemble. Prenez une position assise de votre choix. Si possible en Vajrasana, c'est-à-dire à genoux, de préférence à califourchon sur un gros bolster, ou plusieurs traversants, coussins fermes, ou 2-3 briques, de manière à alléger le poids sur les genoux et les talons, et de relâcher au maximum les hanches, le bas-ventre. Replacez les fessiers de manière à sentir l'ancrage de la posture depuis les petits os des fesses, les ischions. Et de là, on laisse bien chaque vertèbre s'aligner les unes au-dessus des autres. La cambrure s'efface, la poitrine ouverte, les épaules relâchées vers l'arrière, vers le bas. Le sommet du crâne aligné avec le coccyx. Les traits du visage détendus, les mâchoires détendues. Les trapèzes détendus, le ventre détendu. Prenez une grande inspiration et soufflez. Tout se relâche et en même temps tout s'auto-agrandit et est attiré vers le ciel. Aujourd'hui, nous allons chanter ensemble un mantra qui est une ode au soleil, une manière d'invoquer son énergie et de le remercier pour ses bienfaits, de se laisser imprégner de sa substance. Commencez donc par visualiser un souvenir agréable, peut-être très joyeux où le soleil a été très présent. Ça peut être l'été, ou à une autre saison, à n'importe quelle heure de la journée, selon si vous aimez qu'il soit chaud, brûlant, aveuglant, doux ou couché, selon la couleur que vous aimez, selon le souvenir. Avec qui et où étiez-vous? Que faisiez-vous? Souvenez-vous de la sensation éprouvée. Le bien-être, la joie, la complicité et les rires. C'est avec ce souvenir en tête que je vous inviterai par la suite à honorer le soleil, à le remercier d'avoir éclairé cet instant, à remercier les personnes qui l'ont partagé, ou si vous étiez seul, à vous remercier vous, le soleil et les éléments qui vous entouraient à ce moment précis. et dans l'espoir que ce soleil vous apporte autant de moments rayonnants dans les mois qui arrivent. Préparez-vous en commençant par activer votre langue. Avec votre langue, passez dans tous les recoins de la bouche, le palais, les dents, l'arrière des dents, les gencives, l'intérieur des lèvres, devant les dents, l'intérieur des joues, et plusieurs fois pendant quelques instants. Réveillez votre bouche, préparez-la à tous les mots qui pourraient en sortir. Et quand vous avez fini, avalez votre salive. Prenez quelques instants pour vous assurer que vous respirez avec ampleur et avec une inspire depuis le ventre, les côtes, la poitrine, une expire par le ventre, les côtes resserrées, épaules baissées. Inspire, ventre, côte, poitrine. Expire, ventre, côte, poitrine. Inspire, ventre, côte, poitrine. Expire, ventre, côte, poitrine. Inspire, ventre, côte, poitrine. Expire, ventre, côte, poitrine. La bouche fermée, on va commencer avec des mm. Prenez le temps de bien savourer toutes leurs vibrations au fond de la gorge et d'expérimenter la manière dont vous pouvez les faire durer. En expirant d'abord tout l'air du ventre, puis l'air au niveau des côtes, et terminez par aller chercher le reste dans la poitrine. N'attendez pas de manquer d'air. Arrêtez-vous un peu avant le vide total. Et allez à votre rythme. C'est parti. Capturez les dernières petites vibrations dans les lèvres, dans les dents, dans le crâne. Et maintenant, on va essayer quelques A. Ouvrez bien la bouche, et projetez bien le son vers l'extérieur, comme si vous vouliez faire s'ouvrir le plafond au-dessus de votre tête, ou si vous êtes dehors, vous rapprochez du ciel. Faites-le vibrer dans votre poitrine également, qui s'épanouit elle aussi. Prenez quelques instants, observez le retour de vos sensations. Est-ce qu'elles sont différentes? Est-ce que des endroits différents ont vibré? Est-ce que votre température a changé? Le mantra que nous allons chanter est très simple. C'est Om Sri Suryaya Namaha Om. Et nous allons le répéter quelques minutes. Vous pouvez le répéter sans ton, quelquefois avec moi si vous voulez. Om Sri Suryaya Namaha Om. Sri Suryaya Namaha. Om Sri Suryaya Namaha. Om Sri Suryaya Namaha. Om Sri Suryaya Namaha. Quand vous allez le faire, pensez à bien continuer de respirer. Ne pensez pas à chanter juste, mais plutôt comme ça vient, spontanément. Comme nous ne sommes pas tous ensemble, en vrai, vous ne pourrez pas sentir toutes vos énergies s'accumuler, se soutenir, mais laissez-vous quand même du mieux possible porter par votre voix. Ayez conscience du soleil, de ce que vous êtes en train d'invoquer ou de remercier à chaque prononciation, ou bien laissez le vide mental de cette méditation sonore vous bercer, vous ressourcer. On y va. Om Sri Suryaya Namaha. Om Sri Suryaya Namaha. Om Sri Suryaya Namaha. Sri Suryaya Namaha. Om Sri Suryaya Namaha. Om Sri Suryaya Namaha. Om Sri
Namaha Om Sri Suryaya. 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 Namaha Om Namaha Om Sri Suryaya 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 Namaha Sri Suryaya Namaha Om 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 Sri Suryaya Namaha
Goûtez les dernières vibrations de ce chant, les derniers sons au loin dans le corps. Restez quelques instants dans le calme, apaisez votre respiration. Inspirez profondément par le nez, soufflez. Inspirez profondément par le nez. Soufflez. Relâchez tout une dernière fois. Et ouvrez les yeux. Et je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.
Nous arrivons peu à peu au terme de cette troisième émission Radio UCLUC Faire Société Pratique et Influence et comme à chaque mois, nous avons souhaité ouvrir la parole à l'espace public et alimenter la réflexion. Sous forme de micro-trottoir, nous avons récolté quelques réponses à la question « Y a-t-il une pratique ou une influence qui a opéré un changement dans votre vie quotidienne ?» Nous remercions toutes les personnes qui ont bien voulu répondre spontanément et ainsi alimenter la parole boue.
C'est par le dessin, par la peinture, avec l'activité qu'avaient fait mes jeunes enfants au musée de Valenciennes. Le professeur qui était là m'avait dit « Mais pourquoi vous vous y mettez pas, vous aussi ?» Si bien que je suis partie dans cette chose qui pour moi était impossible à vivre, à faire, À l'époque, j'avais encore mes 5 enfants, donc pas beaucoup de temps. Et j'ai pris le temps, un peu, une heure, d'abord pour peindre n'importe quoi, un paysage, et après m'intéresser à la peinture en général. Je me suis trouvé une opportunité de faire autre chose que la famille, les repas, les écoles, les études de mes enfants. Donc j'avais quelque chose à moi. Ce tableau, je l'ai fait. C'est un des derniers que j'ai fait. Parce qu'après les études de 5 enfants qui font des études supérieures coûtent un argent fou. Et je n'ai plus assez d'argent pour acheter peinture, pinceau. Donc j'ai dû arrêter. Mais toujours en gardant un œil sur des pratiques que je ne faisais pas moi-même, mais qui m'ouvraient à des techniques que d'autres mettaient en place et que je n'imaginais pas qu'il était possible de faire. C'était un défouloir. Ça me faisait un bien énorme. Je ne cherche plus à faire du dessin, je ne peux plus, mes yeux ne veulent plus et mes doigts non plus. Donc, tout est dans la tête. Je trouve mon bonheur dans l'expression de ce que font les autres. Voilà, en fait, c'est ça.
La construction. Voilà. C'est la construction qui m'a fait changer ma vision. Transformer. Créer. Tout ce qui est agencement intérieur, etc. C'est ce qui m'a plu. C'est la pratique que j'aime bien. Après, d'où ça vient, j'en sais rien. J'ai commencé un peu bêtement par aider des gens. De leur chez eux, quoi. À partir de là, après, j'ai pris goût à la chose. Et c'est devenu un petit peu une passion, un petit peu quelque chose que j'aime faire. Voilà. Dans le sens où je m'amuse un peu quand je le fais. Voilà. Donc c'est tout ce qui a trait plutôt à l'immobilier, quoi, on va dire. C'est un peu ça que j'aime bien. Ça me permet d'être bien dans ma tête, bien dans mon esprit. Quand, au final, après, quand tu le regardes, quand tu recules, tu te dis, bah, tiens, ça c'est fait, c'est bien, j'ai créé ça, c'est bien. Tu as une certaine jouissance, en fait, d'avoir fait, justement, créer cet espace, créer cet endroit, créer, tu vois, tu as une certaine récompense, qu'on va dire, récompense finale, qu'on va dire.
Le voyage. C'est ma réponse à la question. Le voyage, ça m'a fait changer énormément. De voyager, de se confronter à d'autres personnes et à d'autres cultures, à d'autres paysages. La route, ça fait énormément se poser des questions, se refléter soi-même. On se voit à travers la culture des autres et je trouve que ça fait changer. J'aime bien être un petit peu à la rencontre des gens. Si je peux être à la rencontre des locaux, ça me plaît. J'aime pas tout planifier à l'avance et me laisser porter. Et surtout, j'aime les voyages longs. Donc j'aime bien, en fait, pour avoir une immersion maximale, j'aime bien être dans un pays un minimum de temps. Je pense que le minimum pour moi, c'est un mois. Et c'est là où j'ai vraiment l'impression d'avoir une connexion avec l'endroit où je suis. Et ça, c'est ce qui me plaît le plus.
J'ai une compagne, elle cultivait des galets, qui venaient, je pense, du bord de la mer du Nord. Et elle remplissait son lavabo, c'était joli. Le lavabo ressemblait à un petit fragment de plage de mer du Nord. Mais du coup, c'est vrai que j'ai continué moi-même, bien que je ne côtoie plus cette femme, à chercher des pierres au bord de la mer, en Bretagne ou en Normandie. J'ai fait aussi mon petit morceau de plage bretonne avec des galets sur mon lavabo. Mais en fait, cet amour des pierres, je crois que ça, c'est aussi un plaisir d'enfant. Hein, parce qu'on est enfant, on aime ramasser des choses un peu pittoresques qui sont par terre, dont les pierres. Ça a réactivé, je crois, mon plaisir de collectionner pierres et fossiles quand j'étais enfant. Alors j'ai commencé aussi à collectionner les bédémiques, puis de pierres aussi que j'ai achetées chez des revendeurs de pierres. Et il y en a une petite boutique, là, ils ne vendaient que de très grandes pierres chinoises. On appelle ça pierre des lettrés, alors je ne sais plus comment on dit en chinois. C'est aussi des objets d'échange pour moi avec des étudiants, par exemple. En fait, je cache les pierres dans des petites boîtes qui réalisent ou je réalise, c'est des boîtes à chaussures parfois, tu vois. Et ils doivent toucher la pierre en aveugle, en fait. On fait deux trous dans la boîte, à droite et à gauche, on met main droite et main gauche dans la boîte. Comme c'est des gens souvent qui conceptualisent trop, où tout passe par, parfois par le dessin, mais même par l'écrit, d'un seul coup, ils sont confrontés à une appréhension d'un objet du monde que par le toucher, tu vois. Et après vraiment l'avoir longtemps senti, après l'avoir visualisé, je leur demande d'en faire une copie à l'identique en termes et plus grande, deux, trois fois plus grande. Donc je leur demande d'aller sentir la pierre du voisin et de faire le modelage du voisin. Donc au bout d'un moment, tout est dans tout, tu vois, et ça, sur ces histoires d'auteur, de projet collectif, de partage, au bout d'un moment, ces pierres, elles circulent finalement, elles sont partagées dans le groupe d'étudiants. Donc voilà, c'était une histoire avec des pierres.
As my profession is an engineer, and as a hobby, I took the drawing classes, and they seem to be far away fields. But I was fascinated after some time with the drawing classes that the two fields do have some effect on each other, and just by practicing something manually that have a deeper philosophical thought beneath. It does an effect on your daily thinking in your own job. And I was really surprised that it can have an effect on engineering. And if you want an example, it is during the drawing classes, you often said that you have to stand up and take a distance from your work. And this is a very simple method or very simple act that you really practice regularly. And it's through the practicing, manual practicing, this comes through into your mental work, into your engineering work. And you can apply the same process on creating something on a very remote field. Yeah.
Bah moi du coup je pense que ce serait plus la danse que j'ai commencé à pratiquer quand j'étais toute petite. Donc j'ai commencé quand j'avais genre 3 ans ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée au niveau déjà de la confiance en moi, parce que bah je me sens vraiment à l'aise quand je danse ou même quand je monte sur scène. Puis ça m'a aussi permis de d'être plus à l'aise aussi face aux gens, en fait, face au regard des gens. Donc ça, c'est quelque chose qui a marqué beaucoup ma vie, je pense. J'ai fait aussi pas mal de spectacles de rue aussi, quand j'étais plus jeune. Et ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Ouais. Même pendant mon adolescence, c'était une des seules choses dans laquelle je me sentais vraiment bien, en fait. Le spectacle de rue, après moi, c'était particulier parce que... Enfin, c'était du spectacle de rue, mais pendant des genres de fêtes à thème, en fait. Et du coup, on était déguisés, on avait des costumes. Et puis, en fait, on faisait de l'animation plus que vraiment du spectacle. Enfin, on avait quand même décoré, etc. Mais c'était plus le contact avec les gens. Enfin, jouer un rôle aussi. D'avoir ce déguisement, etc. C'était ça aussi que moi, j'aimais beaucoup dans ce côté-là. Je pense que... Enfin, ouais, ça m'a aidé dans certaines situations où il fallait peut-être... faire un peu semblant ou enfin jouer avec ça, et je pense que ça continue à me marquer beaucoup. Moi j'ai toujours grandi avec de la musique tout le temps, en fait, même encore maintenant. Mon père à 7h du matin il peut mettre des rocks, des trucs, et du coup toute cette influence avec la musique, moi ça m'a beaucoup marqué. Donc il y avait la danse, après j'ai commencé à jouer des instruments de musique aussi. Donc tout autour de ça, et je pense que c'est mes parents qui m'ont surtout poussé à partir là-dedans. Ouais.
Alors, j'ai un souvenir de ma première année de fac. J'étais en médiation culturelle, mais j'avais jamais vraiment eu de contact réel avec la médiation. Et il y a une chargée de com d'un théâtre qui s'appelle La Rose des Vents à Villeneuve-d'Ascq, qui est venue présenter des spectacles, présenter la saison de La Rose des Vents. Et j'aimais tout chez elle. Je trouvais qu'elle était trop belle, elle était trop cool, elle avait l'air trop sympa. Elle parlait trop bien et tous les spectacles qu'elle présentait, ça me donnait trop envie d'y aller, trop envie de tous les voir. Et je suis sortie, elle est restée quoi, 5-10 minutes, et je me suis dit, mais c'est elle que je veux faire comme boulot. Je veux être elle quand je serai grande. Et du coup, en fait, depuis ce moment-là, ça a vraiment construit tout mon rapport à ma construction professionnelle. Et du coup, j'ai fait des stages dans plusieurs assos, dans différentes thématiques. Une asso pluridisciplinaire, j'ai fait un stage dans un théâtre. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas le théâtre qu'il me faut, c'est plutôt l'art contemporain. Mais j'ai toujours en mémoire cette révélation divine de cette personne-là qui m'a influencée et qui m'a donné une perspective professionnelle. Dans mes expériences, dans mes stages ou autre chose, je me rendais compte que ce que je faisais, j'étais moi-même. Et je voyais clairement l'impact positif que ça pouvait avoir sur d'autres personnes. Et du coup, en fait, là, pour le coup, c'était vraiment l'influence des visiteurs ou des personnes que j'avais en face qui me confortait dans mon choix. Donc vraiment l'influence de dire ce que j'ai comme retour face à moi a une influence positive sur ce que je suis, sur ce que je fais et sur le fait que je sois à ma place. Honnêtement, à mes débuts, j'écrivais entre guillemets mes visites et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça n'avait aucun sens, que c'était à moi à connaître le travail des artistes, certes, mais qu'en fait, il fallait que je sois toujours en constante adaptation et que, en gros, ça allait être justement les spectateurs et le regard que j'allais avoir en face qui allait me permettre d'évoluer sur ma pratique. Ça peut être, j'ai fait de la méditation, j'ai fait de l'écoute musicale, là, récemment, j'ai fait visite à l'aveugle, enfin, des petites choses comme ça. Mais à chaque fois, c'est toujours le stimulus du public qui va me permettre ce genre de choses et qui va être aussi un retour pour créer et pour adapter ma pratique. Enfin, pour moi, c'est toujours j'ai une influence du public pour pouvoir adapter ma pratique. Et honnêtement, j'ai l'impression d'être en constante évolution. Et je ne fais pas le même boulot qu'il y a 10 ans, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 6 mois. Quoi. Mais justement, ça va être dans un dialogue qui est sans bruit. Parce que moi, je dois capter ce qui se passe, je dois voir ce qui se passe pour pouvoir réagir en fonction et adapter ma pratique. J'aime profondément l'art, j'aime les artistes, j'aime montrer leur travail et j'aime aussi que les gens puissent comprendre qu'un artiste, c'est pas du chiquet, c'est pas un planqué qui fait 3 traits sur une toile et qui vend ça des millions. Et du coup, j'ai vraiment envie de transmettre ce que moi, je ressens. Donc du coup, ça va être... ma pratique personnelle de visiteur et de voir comment je ressens les choses que j'ai envie de faire passer à quelqu'un. Enfin voilà, comme quand on dit à quelqu'un, écoute ce disque-là, il est trop bien, j'adore cette chanson, j'ai envie que tu l'écoutes parce que l'émotion que je ressens, elle est super forte et je pense que tu pourrais être à même de la ressentir aussi. Mais ça se travaille, être en permanence sur le qui-vive, et puis oui, et bien l'art.
chérie.
Et voilà, Faire société, pratique et influence se termine sur cette chanson d'Afelandra Sastia. On vous retrouve dans quelques mois avec un nouveau thème, de nouvelles voix, de nouvelles contributions et manières d'appréhender ce que faire société signifie, avec bienveillance et transdisciplinarité. Merci beaucoup pour votre écoute et vos partages. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à découvrir cette troisième émission que nous en avons pris à lui donner corps et voix. Nous remercions chaleureusement tous les intervenants, intervenantes, contributrices et contributeurs à cette édition qui l'ont nourri de leur expérience, de leur savoir, de leur temps et de leur cœur. Un grand merci également aux personnes qui ont répondu à la parole Bout et à celles qui nous encouragent dans cette aventure. Un remerciement tout particulier à la boutique Bénic à Saint-Malo et à la Fondation des artistes qui ont soutenu cette émission.
Si vous souhaitez contribuer aux chroniques littéraires ou que vous êtes poète, chanteuse ou DJ et souhaitez partager vos créations dans la prochaine émission, n'hésitez pas à nous écrire par mail à l'adresse collectif.ucluc@gmail.com. Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver nombre de précisions, informations complémentaires et liens dans la timeline de l'émission sur www.uclucmaisondecherche.fr/radio. Et que vous pouvez réécouter cette émission gratuitement à l'infini et la partager sans limite. À très bientôt sur Radio Ucluc.